Titre, recueil sur l'amour pervers. Édition du 2020. Depuis de nombreuses années, l'auteur s'est efforcé de vous raconter toujours plus d'histoires insolites sur l'amour. L'aventure amoureuse débuta pour ce lovely boy, lorsqu'il commença à écrire ses rêves d'amour, des songes qu'il griffonna sur ses cahiers de classe en école primaire. Pour parler de ces belles histoires insolites, il dut très vite prendre la plume et retracer son parcours de femme en femme qui surguidait au paradis de l'amour pour vous permettre d'observer de plus près le vrai bonheur sexuel. Cependant, l'auteur s'est appliqué à écrire cette étude qui s'intéresse à la notion de la culture sexuelle dans la dynamique de sa construction en tant qu'objet de la perversion, tout aussi bien que dans ses fondements épistémologiques afin d'établir les sciences qui déterminent l'origine, la logique mais aussi la valeur des actes tels que ceux du vecteur des plaisirs de la chair. Faudrait-il repenser l'émancipation sexuelle pour continuer à s'intéresser à l'amour, si la pensée critique en prolongement de ce qui a été fait durant les siècles derniers qui met à l'épreuve l'interrogation de nos sociétés actuelles sur la perversion sexuelle? Les silences, mais aussi la contribution des grands penseurs sur l'émancipation ont successivement abordé les apports de l'homme et de la femme avec des théories définissant la vérité selon la valeur pratique de la réussite amoureuse, cela dans des attitudes qui ne recherchent l'efficacité dans le sens pratique des plaisirs. Il est donc nécessaire de s'intéresser à la manière dont les femmes et les hommes vécurent dans le passé en interagissant entre l'Église et la société pour trouver un espace social, culturel ou même religieux en particulier pour s'aimer sexuellement. L'amour resta en effet un péché de la chair marqué depuis des siècles par la concurrence de plusieurs religions, essentiellement catholiques ou protestantes, un ensemble de croyances qui se partagea entre autres une même culture patriarcale fondatrice qui apparut dès l'Antiquité. La demande de liberté sexuelle a passé un nouveau cap en devenant le vrai projet de l'amour pour développer un jeu pervers ludique et convivial dans la relation amoureuse, puis ainsi pour connaître le plaisir dans la relation humaine au corps à corps. L'aventure amoureuse étant avant tout la relation entre deux êtres, le sexe reste alors un gage du succès au-delà des processus de la perversion. Le sexe conçu comme un moment d'échange et de plaisir entre les amoureux invite les protagonistes à s'aimer sans préjugés. Les résultats marquants obtenus dans le domaine de la relation amoureuse, qu'elle soit perverse ou qu'elle soit instaurée par coutume dans la morale, elle démontre combien l'amour libre affecte notre liberté. Bien que de nombreux procès tout consacrés à la perversion sexuelle modifièrent l'histoire, cette thématique, la liberté sexuelle, fut souvent soumise à l'appréciation du peuple, surtout dans les luttes féministes des années 60. Le cycle des tabous religieux ou sociaux s'efforça de lutter contre la démocratie pour analyser l'évolution des mœurs sous une forme de participation globale des institutions, mais surtout des adeptes des doctrines de l'antiféminisme qui prônaient leur saine revalorisation du rôle des femmes dans la société. C'est ainsi que les pratiques sexuelles perverses, les attentes et les espérances des plaisirs chez les femmes constituèrent un rejet des interdits dans la diversification des pratiques amoureuses. Ce fut alors une transition démocratique de l'amour et du bonheur sexuel. Aujourd'hui, les internautes disposent de l'outil des messageries du cœur pour échapper à la solitude. Ce qui est tout à fait nouveau est que non seulement elles permettent de maîtriser leurs messages, mais aussi elles offrent un océan d'informations sur les internautes qui l'utilisent, car le secret devient quasi impossible dès que l'internaute crée lui-même de l'information. Une fois ce constat fait, il reste à adopter un comportement différent d'une communication classique, puisque les règles sont bien différentes. Dans ce contexte où les internautes peuvent prendre le pouvoir, il faut mettre en place une stratégie où l'internaute fait partie intégrante de l'échange virtuel. Rien ou presque plus rien ne peut être caché à l'internaute, autant rester honnête. Nous sommes entrés dans une époque où c'est bien l'internaute qui a le pouvoir, aussi il peut faire et défaire des réputations, puisque les messages passent de plus en plus du texte à la photo ou la vidéo. Avant le web, seuls les professionnels disposaient d'un nombre important d'informations qu'ils diffusaient sur différents supports. Aujourd'hui, le grand public, autrement dit l'internaute, dispose à son tour de toutes ces informations nécessaires sur son correspondant. Voilà pourquoi les messageries du cœur sont en général un vecteur de communication qui devient un intermédiaire de poids dans la vie de chacun des internautes. À l'heure de l'information en temps réel, mais aussi de l'avènement des messageries sur les réseaux sociaux, les méthodes utilisées dans les relations virtuelles ne font qu'évoluer. Pour mieux appréhender la relation avec les internautes au travers des réseaux sociaux, les messages d'amour sont une offre qui propose exclusivement aux acteurs de ces médias des contacts conçus autour d'un discours sur mesure, des mots, des verbes ou des images qui intègrent les nouveaux modes de partage et de diffusion de contenu en mixant le texte, la photo ou la vidéo, cela afin de fournir à leurs correspondants leur contenu disponible pour des informations ou encore pour une actualité sous différents modes d'expression. Les messageries impliquent une réaction immédiate pour donner suite aux conversations virtuelles. Il semblerait même que rien n'ait vraiment changé en ce qui concerne les rapports entre les individus lorsqu'ils échangent leurs messages du cœur destinés à la rencontre de l'aventure amoureuse. Les messageries du cœur sur le net font évoluer les méthodes de rencontre de la même façon que nos courriers du cœur d'antan, ce qui change la spontanéité des contacts. Bien sûr, le contact humain traditionnel a encore de beaux jours devant lui, mais le social média des messageries du cœur est bâti dans l'idée d'engager la conversation, l'échange ou le partage suivant les règles du respect d'autrui, des règles bien définies aujourd'hui sur les plateformes des médias sociaux. L'Internet met à la disposition des gens cet outil de communication pour les aider à mieux communiquer auprès de leurs correspondants. Il est désormais un moyen incontournable pour s'adresser à des contacts privilégiés. La messagerie est en effet l'un des moyens qui accompagne le changement de nos rapports aux autres. Elle offre à nos interlocuteurs la possibilité d'entamer la conversation, diffuser de l'information ou des contenus multimédia sur le web. C'est aussi un bon moyen pour rendre plus accessibles les contacts. L'Internet reste un outil performant du point de vue des échanges amoureux, puisque les contenus permettent ainsi aux utilisateurs de trouver directement les personnes ou les informations qu'ils recherchent. Il s'agit donc dans ces pages de tracer une observation sur le contact virtuel des messageries de l'Internet malgré les nombreux maniaques du sexe homosexuel ou hétérogène, cela afin d'entamer une étude sur les pouvoirs du net et de l'amour sur les médias sociaux en général. Les messageries sur la toile sont une aubaine pour servir des échanges textuels de toute nature. Aussi les internautes s'en sont emparés pour trouver l'amour, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels, ces médias leur offrent des opportunités qui fourmillent sur le net. Bien que souvent ce ne soit que des arnaques qui ne recherchent qu'à soutirer de l'argent aux utilisateurs des messageries, il faut aussi admettre que de nombreux propos restent crédibles pour lier des amitiés, voire peut-être même plus. Ces pages regroupent certains de mes contacts qui contiennent des échanges s'articulant principalement autour de l'amour au féminin, parfois même avec des garçons ou encore des lesbiennes que l'amour précipite dans la perversion. Une note justificative figurera à la suite de chaque fiche de mes correspondantes pour donner mon analyse personnelle. L'abstraction du sexe est une opération de l'esprit par laquelle à l'occasion des impressions sensuelles des mots ou des images échangées à l'occasion de quelque affection virtuelle, les internautes transforment leur imaginaire dans des réflexions au concept singulier pour se détacher de tout ce qui peut donner lieu à des repentis moraux, religieux ou sociaux. Quel que soit l'objet réel du désir pour répondre à leurs besoins d'amour, parfois même leur concept indépendamment de leur manière de penser repousse sur des rapports qui dépassent les limites de la pudeur. Puisque ces hommes ou femmes ne peuvent faire connaître aux autres gens leurs pensées autrement que par des contacts virtuels, cette nécessité de l'usage des images à caractère parfois pornographique leur permet de donner un nom au sens réel de leur recherche amoureuse. Ouvrir un message pour s'exprimer au sujet de l'amour ne fut jamais aussi simple, car chez les internautes, il se trouvait de plus en plus de professionnels du sexe, des covergirls qui inondaient la toile avec leurs vidéos pornographiques. Michel n'aimait vraiment pas côtoyer ce genre de filles respectueuses, mais ce genre de message alimentait régulièrement son box mail. Il lui fallut gérer efficacement ses contacts pour ne pas subir le harcèlement de ces putains du net. Toutefois, il aimait bien consulter les messages des novices des messageries du cœur, car elles lui livraient toujours leurs textes de désespoir de leur grande solitude amoureuse, mais aussi leur espoir de décrocher le bonheur suspendu à leur illusion de rencontrer l'homme de leur vie sur la toile. Michel connut alors ces allumeuses sur le net qui aimaient bien vivre leur apogée dans le luxe. Elles avaient un rôle important dans la vie mondaine, puisqu'elles étaient toujours des dames bien établies. Ces femmes faisaient le commerce de leur charme, elles participaient au libertinage sur l'internet, elles usaient par convenance mais aussi avec une grande perversité, d'une génialité au quotidien pour exciter le désir afin de soutirer de l'argent. Aux internautes non avertis. Cela porte bien souvent à donner au concept métaphysique de l'amour des mots, des paroles et des images qui n'ont aucune valeur acceptable pour contribuer à leur recherche de l'amour. Le sentiment uniforme qui existe entre les internautes qui utilisent la messagerie reste semblable à de la tricherie, puisqu'il faut savoir en particulier que les qualificatifs qui ont attrait au sexe à chacun de ces échanges virtuels font bien souvent l'objet d'une perversion non avouée. À chacun de mes contacts, en particulier avec ces personnes qui ne recherchaient que le rapport sexuel de manière à ne satisfaire que leur pulsion libidinale, il me fut possible de comprendre leur propre perversion. Il me fut aussi facile de déceler que leurs propos ne ressemblaient qu'à ceux de ces êtres pervers qui ne demandaient qu'à abuser de leur névrose sexuelle, de leur pouvoir pour dépasser les limites légales de la fonction sexuelle dans l'utilisation du sexe à des fins personnelles, surtout selon l'image que l'objet de leur fantasme pouvait inventer dans leur folle abstraction pour le sexe bien plus que pour l'amour au sens propre. Il y a en effet des internautes que nous appellerons des gens sérieux, mais il n'y a point d'individu qui soit uniforme, hormis certaines gens très prudes, des gens qui soient différents dans leurs causes particulières envers l'amour et le sexe. L'auteur décela tout de même chez ces gens, les mots et les descriptifs de leurs objets du plaisir, des fantasmes dont l'aspect pornographique et libidineux affecta leur passion sexuelle, des gens qui aimaient bien utiliser des artifices sexuels afin de les conduire dans leur univers pervers, des objets sexuels qui leur permirent alors de procéder à leur frustration, nous appellerons ça méfaits des accessoires du plaisir. Ensuite, considérant à part cette manière de procéder pour éprouver une jouissance de l'extrême, il fallut à l'auteur séparer la folie sexuelle qui enivrait toutes ces gens de façon à ne garder que le côté érotique, puisque leur corps ne pouvait alors faire abstraction du sexe, ainsi elles pouvaient disposer de leur corps en puissance pour rester maître dans l'étendue de la figure qu'elles donnaient à leur jouissance dans leur fantasme. L'amour pervers n'est-il vraiment qu'un mécanisme du plaisir, surtout lorsque l'on parle de perversion sexuelle, c'est-à-dire d'un phénomène psychique qui vise à favoriser la joie et la souffrance dans l'acte sexuel, un plaisir de la chair qui utilise l'autre comme une chose, un instrument ou un support permettant d'extérioriser ce qui est considéré comme insoutenable ou parfois même déstructurant pour les individus. Surtout pour ceux qui utilisent la perversion sexuelle pour satisfaire leur imagination qui correspond à leur désir souvent inconscient. À l'origine, la relation perverse envers l'autre n'est qu'un phénomène qui valorise l'ego, mais aussi l'image extérieure de soi-même, un amour narcissique pour se protéger de la morale et du péché de la chair. Les gens parlent parfois de la perversion sexuelle comme d'un trouble mental, surtout lorsque ce mécanisme est porté sur des relations osées, on parle alors de perversion sexuelle. Cependant, la perversion sexuelle reste un fonctionnement sélectif utilisé par tout un chacun pour s'installer et émanciper dans un mode de fonctionnement préférentiel, plus confortable et plus gratifiant pour éprouver du plaisir. Elle leur permet aussi d'éviter la souffrance psychique et l'angoisse. Leur relation perverse cache alors leur peur du vieillissement, de la maladie, mais aussi de la mort. Dans ces moments-là, il ne s'agit surtout pas d'une remise en question de soi-même, surtout dans l'utilisation de l'autre comme l'instrument privé de l'amour pervers afin d'obtenir en retour un amour affectif pour structurer la démence sexuelle. En ce qui concerne la démence sexuelle, Freud situe son discours dans une atteinte psychologique qui forme une rupture par rapport à la morale, l'Église et la société bien-pensante. Devoir passer en revue tout ce qui semble dévier des représentations morales et religieuses que l'opinion commune se fait de la sexualité, m'obligerait à bannir dans mes écrits tout ce qui touche à l'amour pervers. Il me faudrait alors conspuer contre tout ce qui s'exerce autour de l'un des sexes sur l'autre. Je ne m'attarderai pas à décrire des aberrations sexuelles pour justifier de mon comportement avec mes maîtresses, mais je reprends les descriptions des plaisirs de mes anciennes compagnes pour apporter à mes observations sur la sexualité de ces dames, les joies et les craintes de l'amour, puisque ces amours perverses que je leur partageais nous ressemblaient, une description que l'on pourrait qualifier en effet de vicieuse. La vraie normalité dans tout ce qui sort des normes de la sexualité, ainsi que les déviations fondées sur ce qui est appelé l'objet sexuel, ou bien encore le but de leurs désirs pervers dans la recherche du plaisir, se regroupent autour de leurs énergies corporelles qui deviennent alors la source de leur perversion. Ainsi, l'acte sexuel pervers peut être une déviation au sens où le désir s'enracine dans le corps des deux partenaires, en l'occurrence le plaisir non finalisé au sens de la jouissance, devient alors du voyeurisme ou peut-être même une forme d'exhibitionnisme. Enfin, comprendre la perversion sexuelle n'est pas un problème, puisque cela peut signifier admettre la nécessité de conditions particulières dans l'amour, cela afin d'atteindre la satisfaction sexuelle. Cette condition ne correspond en rien à des retours psychiques ayant été vécus dans l'enfance, puisque la perversion désigne le besoin de dépasser les limites de la jouissance, une inclination qui porte à des conduites considérées comme vicieuses, voire même déréglées par rapport aux règles et aux croyances morales de la société. La perversion n'est pas non plus un détournement de l'amour qui globalise l'acte sexuel dans des actions ignominieuses ou des actes salaces pour détourner quelque chose de vrai, de naturel au sens moral, même si elle désigne une déviation des instincts qui conduisent à des comportements immoraux et antisociaux, elle reste malgré tout une manipulation agréable de l'amour. En matière de mœurs, la notion de perversion a beaucoup évolué depuis l'émancipation des femmes et de la sexualité en fonction des époques et de l'évolution des sociétés. La perversion fait souvent allusion à la sexualité, elle désigne alors des comportements qui rendent vils, déshonorants, des conduites considérées comme honteuses, méprisables, dégoûtantes ou bien encore infâmes pour des gens prudents. Même si la perversion reste définie comme une altération à la sexualité, un ensemble de troubles liés à une maladie à l'aspect d'une déviation sexuelle, elle relève avant tout des normes du plaisir de la chair. L'amour pervers désigne néanmoins pour beaucoup de gens une sexualité dont les pulsions sont orientées vers une satisfaction qui aurait avant tout plusieurs formes pour donner du plaisir, c'est-à-dire avec un autre but que celui de l'amour génital. Cela suppose d'une certaine façon que la perversion n'est pas un problème dans l'existence des amours, puisque ce processus développe le plaisir, il reste même l'enjeu de la dynamique de la relation sexuelle. L'emprise du sexe développe toujours une perversion dans l'acte sexuel, puisque la relation et l'objet restent le fondement de l'amour. La perversion sexuelle n'est que l'une des manifestations de l'amour dépourvu de sentiments ou de sens moral. S'il me fallut simplement considérer le corps de la femme en tant que figure du plaisir, il fut évident que je ne pus les regarder comme de lumineuses femmes, ni encore loin comme de souveraines pécheresses. Je ne pus pourtant rien noter de leur pouvoir féminin. Aussi il m'aurait été ridicule de conclure l'amour sur de simples actes sexuels qui n'auraient pu satisfaire leurs désirs fous dans des pénétrations perverses. Mes impressions ou mes réflexions particulières, fussent-elles perverses ou même vicieuses, sont de la même espèce à laquelle nous ne pouvons écarter tout ce qui nourrissait l'esprit malin de mes maîtresses, d'ailleurs n'était-ce pas cela précisément qui torturait leur être. Tel fut cet homme amoureux dont il sera question dans ces pages. Un être bien vivant capable de sentir, de penser, de juger, de raisonner, mais aussi de vouloir se distinguer à chacun de ses actes singuliers ou pervers dans ses facultés amoureuses pour faire le bien dans l'amour. Nous pourrons même dire en parlant de ce Love Boy qu'il n'y avait à ses yeux en ce bas monde que des êtres bien réels, mais aussi de divines femmes à aimer. Il lui fut alors impossible d'ignorer leur regard amoureux, puisque chacun de ces êtres n'avait pour nom propre que le bonheur qui se reflétait dans leurs yeux. Aussi donnait-il un nom commun à tous ces individus qui se ressemblaient dans leur désir d'amour. À chaque instant de sa vie amoureuse, ce nom commun qu'il appelait le bonheur, parce qu'il convenait très bien à sa passion pour les femmes, surtout en ce sens où l'amour beau, bon et vrai devenait pour lui un modèle du plaisir, était dans sa propre raison un choix pour rester fidèle à ses amours simples, abstraits mais aussi bien spécifiques, c'est pourquoi il gardait en lui une tendance artistique afin de rechercher la beauté de la femme pour elle-même. C'est ainsi que la nature l'instruisit, elle lui montra d'abord tout ce que le bonheur et les plaisirs de l'amour avaient de vertigineux dans l'étendue de sa passion pour les femmes, surtout pour celles qui étaient pénétrées de la réalité de ces choses sexuelles qui font que l'homme ou la femme sans amour ne peut formuler dans sa mémoire le vrai bonheur. Sentir les odeurs de l'amour le persuadait dans son fort intérieur avant même qu'il puisse introduire dans son esprit les mots d'amour conçus avec passion pour commencer à faire surgir son venin de l'amour. Dans le commencement de la découverte des oracles d'un dieu de l'amour à tout ce qu'il interrogeait sur le vrai bonheur, ses convictions sur l'usage du sexe, mais aussi les mots cajoleurs et le charme de ses yeux coquins lui permettaient de devenir le centre d'une métaphysique du bonheur sexuel, surtout parce qu'il savait qu'il n'y avait pas d'amour sincère hormis le sien pour réellement motiver les femmes. Mais il savait aussi qu'il en fut de même pour toutes ces courtisanes qui ne recherchaient l'homme que pour satisfaire leurs fantasmes sexuels, puisque toutes ces femmes n'étaient à ses yeux que des prêtresses du temple d'Apollon de Delphes. Elles furent ainsi des femmes émancipées, même que plusieurs de ces belles dames éprouvèrent un grand bien à redécouvrir leur corps pour jouir, cela, jusqu'à ce que les démons de l'amour viennent les précipiter. Dans l'abîme de la perversion sexuelle, aussi recherchèrent-elles alors les moyens de remédier à leur frustration sexuelle, puisque leur exaltation érotique acheva de les rendre coupables des plaisirs de la chair. Cependant, Il y eut aussi dans sa vie amoureuse de nombreuses jeunes filles encore vierges à cause de leur pureté, de leur conformité avec la religion, la morale et la société, des jeunes femmes que l'on jugeait prudes, plus propres dans leur âge tendre que dans leur fantasme. Ce n'étaient pourtant que des jeunes personnes pures au corps brûlant que la fièvre de l'amour rendait passionnantes. Ces jeunes filles souffraient de leur manque d'amour, mais elles gardaient les secrets de leur passion sexuelle, par précaution dans leur choix de livrer leur corps à l'amour pervers, car elles ne connaissaient pas non plus ni les parfums ni les essences du bonheur, ni tout ce que le luxe raffiné pouvait leur faire imaginer de l'amour, pourtant les odeurs du sexe elles en raffolaient vraiment. Il ne condamna jamais leur fantasme, puisque ces jeunes filles n'employaient point d'autre artifice factif dans l'obscurité de leur solitude amoureuse, cependant elles n'ignoraient pas non plus toutes ces choses qui les faisaient rêver de cet amour qui leur faisait toujours un peu mal mais aussi beaucoup de bien juste au bas du ventre. Puis il eut cette demoiselle, une jeune femme de la trentaine d'années, son quartier coup de cœur dans Paris fut Lutèce, cette capitale de l'amour reine du monde l'enthousiasmait. Elle était une jolie blonde, le nez retroussé, l'air moqueur et les yeux toujours rieurs. Elle aimait par-dessus tout les rues de Saint-Germain-des-Prés et leur diversité culturelle. Cette Dulcinée aimait beaucoup la richesse de ses habitants, mais aussi ses musées, ses cafés et la découverte de son histoire dans ce panorama que la ville lui offrait à chaque coin de rue où elle restait toujours en admiration devant les façades de vieux immeubles. Cependant, sa rencontre avec de jolies femmes marqua toute son histoire, libertine empoisonneuse ou encore reine des nuits parisiennes. Elle avait un point commun avec toutes ces garçons qui l'abordaient, leur forte personnalité et leur liberté sexuelle attiraient toujours cette jeune femme. Dans les plus beaux quartiers de la capitale, en plein cœur du Marais ou au pied de la fontaine Saint-Michel, elle traversait le temps en écoutant ses propres récits qui parlaient d'amour. Ses amantes nourrissaient ses amours mais elle avait un grand besoin de rencontrer un homme, un garçon pour connaître les joies de la pénétration et goûter au sexe masculin. Surpris par les sourires de la jeune femme, Michel demeura sans voix, puis il lui sourit à son tour. Le message d'amour se décrivit dans leurs yeux, jusqu'à ce que quelques pas tremblants conduisent Michel vers la demoiselle pour l'aborder et lui conter fleurette. Fût-il été nécessaire de jouer le don Juan pour convaincre cette jolie jeune femme de le suivre au bout du monde, le sien évidemment, celui de tous ses espoirs de bonheur, non, puisqu'elle lui était tout acquis, son sang brûlait d'une fièvre d'amour ardente. Son petit studio situé au fond de la cour d'un immeuble ancien ressemblait à un dépôt de vieux journaux et de paperasses de toutes sortes. Cette femme très cultivée s'était penchée sur l'histoire féministe de son quartier, elle s'était fixée pour mission d'écrire un fascicule pour traiter les amours durant les derniers siècles afin de parler de l'émancipation sexuelle, mais aussi et surtout pour décrire les amours pervers entre les lesbiennes de ce quartier ou de nombreuses femmes révoltées, notamment des littéraires ou de savantes bourgeoises qui pratiquaient l'homosexualité féminine, ces femmes qui cherchèrent à échapper à la hargne sexuelle des hommes. Elle ne cessa pas de me redemander de lui faire mal là où cela lui faisait beaucoup de bien, juste au bas du ventre, mais elle me répéta aussi avec ses mots salaces que mon amour n'avait rien de comparable à celui de ses maîtresses. Il me fallut redoubler d'énergie sexuelle, lui faire les pires cochonneries pour la satisfaire. Voilà pourquoi j'ose traiter de la perversion, car mon vécu auprès de toutes ces belles gens est rempli de ces anecdotes putassières. J'ai dû constater que la morale et les mœurs ne désignaient que l'ensemble des règles et des préceptes obligatoires conformes aux usages d'une société proche du catholicisme, puisque certains de ces préceptes reposent sur les lois de l'Église. La morale utilisée sans nette distinction de la logique selon le respect des mœurs, devient parfois un obstacle aux joies de l'amour. Néanmoins pour certains gens modernes, la morale se distingue, selon qu'elle soit utilisée à bon escient pour définir une réflexion fondamentale entre les individus et les actes. Je fus tout de même assez désorienté par cet amour animal que nous partagions, mais malgré l'immoralité de nos actes, elle sut m'expliquer que la morale dans la perversion intervenait suivant les normes, les limites et les devoirs dans son aspect pratique en amour, même dans des actes crapuleux, parfois même dans des actions nuisibles comme la démence sexuelle. Aussi elle s'était exclamée qu'il ne me fallait surtout pas confondre la morale avec les problèmes de conscience, surtout ceux qui avaient tendance à argumenter de façon subtile le byzantinisme. En s'intéressant à la question du bien ou du mal de la morale, elle sut distinguer le vrai mais aussi le faux de la pensée universelle qui condamnait la perversion sexuelle. L'amour pervers que la société jugeait illégal dans sa pratique, ainsi que les valeurs que la morale fixait de saint vis-à-vis de l'Église, cet idéal de l'amour commun à lui-même mais aussi à de nombreux individus hommes ou femmes dans l'ensemble de la société, définissait ces actes qu'il lui fallait commettre pour agir en individu libre et émancipé. Les attitudes de cet homme étaient contraires à la morale, elles transgressaient délibérément les règles de la société bien-pensante, mais aussi de l'enseignement des valeurs de l'Église qu'il reçut durant sa tendre enfance, cela sans pour autant porter de jugement sur les concepts religieux. Il refusait de se soumettre à l'existence d'une morale qui l'empêcherait de transgresser le divin de l'amour. S'il lui fallut devoir séparer la notion du respect des mœurs et de la morale contre celle du plaisir, il aurait adopté un raisonnement plus clairvoyant pour se confondre dans cette société prude, mais ses instincts sexuels dans l'agrément de sa vie de lovey boy restaient bien différents du type de culture et de moralité qui cohabitaient dans son esprit. Sa douce compagne aimait surtout renvoyer à l'ensemble de la société les politesses, la courtoisie, le civisme et même le respect de la religion, puisque ses codes de bonne conduite ne correspondaient pas aux dogmes collectifs, surtout parce que ses règles morales ne pouvaient être vues que comme une simple question de ses désirs qui ne recherchaient avant tout que le plaisir sexuel. Cette femme ne fit point un bon usage de l'amour pervers comme on pourrait le croire communément, puisqu'elle lui assurait expressément le contraire du plaisir que lui partageait ce lovey boy. Cependant, cette jeune femme n'oubliait pas non plus de lui dicter de son propre glossaire de l'amour les mots qui l'enivraient. Sans entendre les souffles du plaisir de son partenaire, elle s'accordait à dire que l'explication de cette joie se trouvait dans ces élucubrations sexuelles très perverses qu'elle lui accordait. Elle trouvait dans le recueil de ses mots salaces un grand nombre d'expressions qui répondaient à sa folie sexuelle pour désigner le langage de l'amour, surtout celui qui signifiait dans son esprit le principe de toutes ces choses qu'elle désirait pour atteindre le nirvana. Les signes qui marquaient le caractère de sa perversion auraient pu être attribués à des amours antiques aux orgies outrageantes, pourtant les rapports sexuels qu'elle dut adopter furent tout à la fois un grand bonheur, mais aussi une souffrance dans les revers de sa vie. Cela signifiait qu'elle fut frappée par la terreur de l'amour, mais aussi quelquefois dans sa chair. Sa perversion n'était véritablement qu'un plaisir bref qu'elle ne pouvait exprimer en peu de mots pour exiger encore de cet amour qui lui faisait mal, mais aussi beaucoup de bien, toujours juste au bas du ventre. Semblable au fameux agitateur du cirque romain, elle se représentait victorieuse dans ces moments où il expirait à trouver le repos de l'âme et de la chair, couché sur son séant pareil au génie de l'amour. Après la douleur du sexe, de sa perte de la raison d'aimer, la mort lui aurait apporté le repos éternel, mais non, cette survivante en voulut encore de cet amour qui lui faisait mal mais aussi beaucoup de bien. Toujours au bas du ventre, aussi elle ne put se résigner au plaisir sexuel, car l'amour qu'ils partagèrent signifiait pour cette jeune femme s'enchaîner à ce garçon pour la vie. Son amour se composait parfois d'effets moqueurs qui ressemblaient à de méchantes railleries bien plus qu'à de la perversion sexuelle. Il eût été difficile de lui proposer un plaisir plus étendu que celui de traiter de tout ce qui avait rapport à sa curiosité envers le sexe fort, à ses devoirs d'amante, mais aussi à ses besoins, ses plaisirs folding dans son amour désaxé, déséquilibré, puisqu'elle semblait être atteinte de troubles mentaux. Elle s'était accoutumée à me juger pour affirmer sa victoire sur sa capacité à dominer les hommes en s'écriant que jamais nous n'achèverons de nous aimer. Elle considérait même que l'immensité de notre amour pervers fut la seule chose qui ne put être dissociée de nos rapports sexuels endiablés. Elle aimait consulter un exemplaire des Amours du marquis de Sade dans sa bibliothèque pour m'instruire sur les dérives sexuelles du plaisir de la chair. Aussi me demandait-elle de reproduire les actes salaces de l'auteur. Ses paroles parfois illusoires étaient d'une incohérence qui me faisait craindre sa démence. En effet, sa détresse psychique l'autorisait à ne censurer aucun de ses actes, plus rien ne l'interdisait de se détruire pour accéder au plaisir pervers. Enfin, grâce à mes audacieuses prouesses sexuelles constituées de saveurs inouïes, elle s'endormit rassasiée de cet amour qui lui fit mal mais aussi beaucoup de bien, toujours juste au bas du ventre. Sa fatigue fut une aubaine qui me permit de fuir cette nymphomane. Ma sexualité ne manquera pas d'être discutée, puisque les vues que j'expose dans cet ouvrage sur l'émancipation sexuelle sont plus subjectives que scientifiques dans l'embourgeoisement de notre société. Cet ouvrage a donc pour objet de retracer l'histoire du développement de la répression sexuelle sur le plan psychologique et social, étant bien entendu que tout ce qui touche à l'amour pervers devient alors immoral pour la société et l'Église. J'ai dû limiter mes investigations sur l'amour à l'exception de certaines de mes expériences vécues pour ne pas rendre regrettable la lecture de ce livre, puisque les tabous sexuels semblent avoir disparu de mes écrits. L'émancipation sexuelle fut longtemps décriée par ceux qui se référaient à une éducation sexuelle saine, cela afin d'accéder à un amour rationnel et aux bonnes mœurs. L'émancipation sexuelle a certainement aussi joué un rôle important dans les changements de notre société, notamment dans l'émancipation des femmes. Bien que l'homosexualité féminine soit soudainement apparue comme une certaine marginalisation de la cause féminine, l'amour libre a su donner aux individus la liberté d'exprimer leur propre sexualité. Ce livre achève donc de libérer les consciences envers l'émancipation sexuelle, puisque la prostitution du corps de la femme dans le couple n'est plus hors la loi dans les images de l'amour, surtout depuis que la révolution des féministes a su affirmer l'idée selon laquelle les débordements de la perversion sexuelle n'étaient point un excès aliénant mais tout simplement un complément construit autour de différents actes du plaisir charnel. Même si le désir féminin eut pour enjeu le plaisir, la liberté sexuelle qui conduisit parfois à la débauche ce jeune garçon, le corps de la femme resta vraiment désirable pour ce lovely boy. La position mentale de ses amours restera profondément fidèle à ses attentes de fornication, puisque l'émancipation sexuelle de ses maîtresses n'avait aucune manifestation morale ou religieuse régressive, elle le faisait rêver surtout lorsqu'il s'attardait sur la question féminine face à leur émancipation sexuelle. Le reflet de l'amour qu'il porta dans son cœur mais aussi dans sa mission de lovely boy, lui servit à valoriser ses folles relations sexuelles face à la réelle pudibonderie des gens bien pensants. L'émancipation sexuelle des années 70, mais aussi l'évolution des mœurs combinées à sa passion pour les femmes eurent de considérables répercussions dans sa vie de charlatan des amours perdus. Au regard de la riche prospérité de ses amours, la perversion devenait dans son existence une puissance sexuelle qu'il contrôlait scrupuleusement. Aussi ses instincts primaires n'étaient pas hérités du puritanisme, cependant il condamnait les relations amoureuses qui le poussaient souvent à n'être qu'un objet sexuel pour le plaisir de ces dames. Devant l'immensité de leurs rêves fous, elles revendiquaient la liberté et leur indépendance, cela même, si leur éducation sexuelle commença très tôt, elles souhaitaient autant de grandes choses, mais aussi faire tout ce que les hommes se permettaient pour vivre un amour heureux. La plupart de ces dames ou jeunes femmes que fréquentait Michel n'étaient que de jolies provinciales pour qui monter à Paris fut une grande aventure de jeune fille. Elles y rêvaient depuis longtemps de ce miracle parisien, ce désir de côtoyer la grande ville, mais aussi la grande vie pour s'y faire remarquer. Ces belles jeunes femmes eurent le cran de quitter leur gentille famille, leur vie bien rangée pour découvrir un monde nouveau, quitter leurs conditions de provinciales à tout jamais. Il aimait beaucoup ces jeunes femmes qui espéraient être accueillies en fanfare dans Paris, lumière du monde, capitale de l'amour. Toutes ces jolies jeunes femmes impatientes de conquérir la capitale, mais aussi ces lieux légendaires où le champagne et la féerie dans ces nuits où les femmes au sexe à pile étaient étourdissantes, devenaient prodigieux à leurs yeux. Ces inoubliables jeunes filles offraient à Michel leur amour, avec panache. Aussi régnait-elle dans son cœur, elle cherchait bien souvent à devenir de célèbres femmes pour s'entendre conter leur propre légende de comédienne, de tragédienne, car elles savaient en jouer pour être aimées. Si la nature leur avait donné d'autres dons, elles auraient aimé rivaliser de féminité avec les plus belles filles du monde, mais ces jeunes pécheresses n'étaient pas capables de faire autre chose que l'amour pour survivre à leurs illusions. Elles incarnaient les charmes des Parisiennes, leur grâce, leur chic restaient inégalables, ces femmes surent me conquérir. Elles étaient une présence qui m'inspirait de doux songes d'amour, aussi créaient-elles sans le savoir mon paradis dans un artifice de joie et de bonheur. Ces jolies jeunes femmes savaient aussi qu'à Paris, les hommes avaient beaucoup plus de respect pour leur corps d'amour que pour leur sourire angélique. Elles auraient affronté le monde entier pour plaire, mais il manquait toujours à ces déesses de l'amour un partenaire qui leur permettrait de rentrer dans la légende des amours fusionnels pour susciter le regard des hommes, puisque ces délicieuses jeunes femmes ne connaissaient pas encore le paradis des grandes amours. Elles recherchaient surtout à snober le mariage, car Michel préférait l'union libre en revendiquant sa liberté, mais aussi toute son indépendance. Même si leur éducation sexuelle commença très tôt, elles souhaitaient autant ces grandes choses de l'amour que les hommes s'offraient, mais aussi faire tout ce que les hommes se permettaient pour vivre heureux. Leur rôle de femme, mais aussi leur friction, leur servaient à défendre leur choix de vie et leur indépendance économique en devenant des femmes faciles et légères face à une gent ingrate et insultante, voire même irrespectueuse. Ces Amazones osaient tout pour séduire, fumer, porter des pantalons, couper leurs cheveux à la garçonne. Ainsi elles se révélaient émancipées dans cette société conçue pour les hommes. Bien que cela fût un peu humiliant, elles n'en voulurent pas aux femmes qui les jalousaient, car comparées à leur liberté elles se savaient tout de même enviées. La libération de la femme était devenue un mouvement irréversible, aussi les bourgeoises au lieu de les jalouser auraient-elles dû les encourager dans leur choix de vie. Cependant elles savaient aussi que toute femme appréciée des hommes ne cherchait à être aimée que pour triompher de l'amour, tempétueuse elles ne soutenaient que leur côté glamour pour offrir aux hommes le spectacle de la légèreté de leur vie de femme libre et émancipée. Ces belles icônes féminines devenues parisiennes bouleversaient les règles des amours, puisque fidèles à elles-mêmes, elles apparaissaient divines pareilles aux anges des cieux. Le peuple parisien n'avait jamais vu de si belles ingénues, si bien que pour les bourgeois ce fut un genre d'idiome apprivoisé par ces belles lurettes, ces jeunes femmes qui surdémodaient la verve crapuleuse et populaire de la gentille bourgeoisie. La vie moderne obligea ces femmes à enrichir leur culture dans les musiques jazz pour s'ébrouer, gigoter, exprimer leur volupté en trémoussant devant les hommes dans des soirées mémorables. Elles devenaient l'effet de mes rêves d'amour, leur apparition devenait esquisse surtout, lorsque l'éblouissement de leurs yeux venait croiser les miens. Pour affirmer mon personnage de Lovey Boy, Paris était redevenue la capitale de l'amour et du plaisir, les escaliers du temple de l'amour semblaient s'étirer jusqu'aux cieux, lorsque ces jolies filles endiablaient me courtiser. Ces jeunes provinciales étaient pour la plupart d'anciennes ouvrières qui avaient quitté le confort de leur vie citadine, avec leurs bouclettes ou leurs cheveux lissés, elles ressemblaient aux anges de minuit pour se confondre dans les tout Paris. Elles avaient un visage radieux, un corps svelte et une grâce irrésistible qui envoûtaient les hommes. Elles me rendaient disponible pour les aimer, le rythme chantant de leur voix me conduisait au paradis. Elles poursuivaient leur ascension au hasard de leur rencontre en faisant sensation dans les milieux bourgeois. Aussi avaient-elles tout un héritage inestimable, celui de la bonté et de l'amour. Ces jeunes femmes ne cherchaient surtout pas à imiter le charme des divines femmes débauchées de la belle époque pour asseoir leur personnage de gouaille. Avec talent de vénusienne, elles apparaissaient encore plus belles que ces femmes qui dirigeaient le monde et qui avaient eu un tempérament d'homme, ou encore une conduite de vraie patronne. Parfois leur humeur était révoltante, elles se querellaient, se fâchaient puis se réconciliaient, mais leur sincérité dans leur rôle de femme amoureuse passionnait Michel. Elles n'étaient plus de pauvres gosses qui rêvaient d'un prince charmant, puisque pour attirer les hommes elles aimaient se montrer partout jour et nuit pour assurer chez les autres leur regard de popularité qui leur convenait afin de continuer à séduire. Elles affichaient leur joie de vivre et d'aimer, elles s'entouraient toujours d'hommes galants qui les sublimaient, aussi croquaient-elles chaque jour le bonheur d'être de belles femmes, surtout avec leur silhouette élancée et leurs jambes fines. Les badauds qui se glissaient jusqu'à leur côté pour les admirer étaient tapés par des fantasmes vertigineux, voilà pourquoi ces filles aimaient beaucoup les péchés du toucher de l'amour, ce n'était point des princesses de légende qui entraient dans la scène de ces amours, elles se sentaient belles, aussi le macadam de Paris et ses boulevards en avaient fait des muses galvanisantes qui ajoutaient au décor parisien une touche glamour remplie d'électrons qui faisaient vibrer les hommes. Ces jeunes femmes étaient ravissantes mais aussi très surprenantes dans leur interprétation de coqueluche très féminine et espiègle. Michel était toujours le partenaire idéal dans leur vie amoureuse, il aimait enlacer leur corps fragile, car c'était toujours sous les lumières de la ville qu'il nouait ses plus beaux instants d'amour avec ses belles de nuit. L'amour tel que vécu par ce Lovey Boy ne fut pas toujours un amour pervers, dans ses messages d'amour il confortait son ivresse pour les femmes avec ses mots qui fêtaient le bonheur. Voulez-vous venir parcourir les rues de Paris avec Noël? Lui demandait bien souvent l'une de ces jeunes femmes, le cœur battant de ses dulcinées n'avait jamais autant bougé qu'au sorti dans les nuits de Paris au bras de Michel, elle n'avait pas non plus autant dansé, le rock and roll, la valse, le tango ou le paso doble qui les avait enivrés des guinguettes au dancing des Champs-Élysées. Elles adoraient se trémousser dans les bras de ce Lovey Boy. Un élan juvénile s'était emparé de ces jeunes femmes, plus de tabous, plus d'interdits. Il leur fallait être des femmes glamour pour rendre hommage au bonheur à qui elles ne refusaient rien. Aussi découvraient-elles qu'elles pouvaient activer leur propre destinée, faire des choix, c'est-à-dire risquer leur vie, puis gagner l'amour. Leur corps s'adaptait à cet élan de vie nocturne pour vivre de plus en plus vite. Elles se libéraient du quotidien, c'est-à-dire avec leur légèreté féminine, car chaque jour se succédait leur folle nuit dans l'approche de la vie parisienne, leur débauche sensuelle laissait Michel Pontoise. Fasciné par le luxe, le faste, le grandiose de la vie parisienne mais aussi de l'amour qu'il leur partageait, elles aimaient ce péché de gourmandise sexuelle qu'il leur offrait, leur beauté sculpturale affolait ce garçon d'un vrai bonheur, car ses dignes Aphrodite orchestraient tous ses espoirs d'amour. Bien que le nu fût un costume bien difficile à porter, cela représentait l'une de leurs qualités pour dévoiler leur corps qui se rapprochait de la perfection, du statut antique des Vénusiennes, des cariatides que personne ne put censurer pour leur beauté, puisque la nudité était perçue comme le fond d'un océan d'amour, puisqu'elles aimaient jouir de la perversité de ce garçon qui les aimait. Le nu intégral de ces jeunes femmes déployait chez Michel l'essence d'un bonheur divin. Le spectacle de leur vie elle le trouvait dans les yeux de ce minou, mais aussi entre ses bras ou ses jambes. Dans l'écrin de son bonheur ses filles devenaient toutes des cendrillons, ces jeunes femmes peu rêveuses qui recherchaient la gloire et l'amour n'avaient qu'une ambition réussir leur vie, car après 30 ans elles ne brilleraient plus des lumières de l'amour qui les rendait belles. Aussi savaient-elles que le temps qu'ils passaient brûlait chaque jour leur jeunesse et que pour ne pas sombrer dans l'alcool et les drogues, il leur fallait vivre bien plus fort jour après jour. Dans Paris qui brillait de mille éclats et d'illusions. Le corps en mouvement de ces femmes aux cheveux courts gominés, avec leur peau d'un blanc immaculé, leurs ongles peints et leur rouge aux lèvres représentaient la modernité de la femme émancipée. Elles ne recherchaient surtout pas à être des images glamour, mais elles savaient très bien imposer leur féminité pour célébrer la femme libérée des tabous des temps passés. Une bonne partie de la bourgeoisie parisienne, mais aussi les bâtards, rejetaient ces filles que l'on jugeait scandaleuses. Cependant, le sexe symbole dans l'âge d'or faisait courir de riches parisiens pour prolonger leur folle nuit. Michel, bien qu'infortuné, était l'un d'entre eux. À son avantage, il régnait dans le cœur de ces belles femmes qui ne pouvaient concevoir l'amour sans la perversion sexuelle de ce lovey boy. Surtout, parce que la popularité de cet homme fut telle que même de vieilles bourgeoises, découvertes en manque d'amour, vinrent solliciter ses folles prestations que l'on disait très perverses mais délicieuses. Lors de soirées galantes avec des initiés aux orgies parisiennes, Michel déclinait les invitations cochonnes que lui adressaient de belles aguicheuses, des snobinettes mal léchées, des gouines qui voulaient rivaliser avec les copines du lovey boy. Ces dames de la bourgeoisie cherchaient à faire rêver Michel. Aussi fortes de leur succès dans les bras du jeune homme, ces provinciales devenues d'authentiques parisiennes savaient que l'amour dans les bras de ce garçon ne serait qu'éphémère, pareil à un mirage sans nom, mais il savait donner le ton à ses amours pour consolider sa passion pour les femmes. Ses confidences suffisaient toujours à faire monter la fièvre chez ses maîtresses. C'est cela qui expliquait l'attrait pour le sexe chez toutes ses compagnes. Pour faire oublier leur monotone quotidien, il inventait des mots d'amour sortis de je ne sais où, et même, si ces mots leur faisaient parfois mal, elles aimaient les entendre. Dans leur course étreinée vers les plaisirs de la chair, les noctambules qui entouraient Michel cherchaient à s'acoquiner des belles demoiselles qui évoluaient autour du jeune homme. C'est ainsi que tout ce que les nuits parisiennes contenaient de noctambules, voyaient tout ce beau monde, des gens chics bien sûr, des gens qui recherchaient toujours une forme de célébrité pour s'acoquiner libre et émancipé. Beaucoup de belles bourgeoises portaient à leur cheville une petite chaînette pour affirmer leur homosexualité, un choix que bien des gens cachaient encore, mais certaines de mes dulcinées aimaient les femmes. Ces belles garçons ne revendiquaient pas une démarche masculine pour s'identifier aux hommes, elles s'inventaient être des muses sans imposer leurs règles morales à l'amour. Sous toutes les coutures nues ou habillées, ces Amazones rejetaient toute moralisation de l'amour, elles affichaient leur indépendance dans cette vie parisienne. Elles étaient incontournables surtout, lorsque l'on cherchait à s'enivrer de leur féminité, toutes ces filles livraient bataille pour trouver l'amour à leur convenance afin de prendre du plaisir. Les lumières bleutées de la salle nuançaient le regard du jeune homme, surtout, lorsqu'elles ouvraient leur corsage de soie pour laisser transparaître leur poitrine. Michel redécouvrait alors le goût suave de l'amour. Elles ne déchantèrent pas, puisqu'elles rêvaient d'amour, rien ne pouvait changer à leurs yeux, tout devenait parfois même effrayant sans l'amour de ce lovey boy qui les fascinait. Les nuits semblaient ne jamais vouloir se finir. Michel aimait bien prendre une dernière coupe de champagne vers 3 ou 4 heures du matin, lorsque les lumières de la ville s'éteignaient. Il traînait alors ses pas dans chaque faubourg où les images étincelantes des cabarets ou des nightclubs flirtaient avec ses amours de la nuit, des amours avec ces jeunes femmes qui avaient su lui offrir une atmosphère de bonheur. Dans ces moments radieux, leur petite histoire de provinciale les avait rendues encore bien plus merveilleuses, puisqu'elles aimaient s'entendre rire des essoufflements de ce jeune homme, lorsqu'ils se couchaient sur leur ventre pour les aimer, des moments qu'elles sublimaient. Elles étaient toutes redevables de leur gloire, de leur amour à ce Paris qui sut les adopter. Elles couraient toujours de place en place pour rattraper les moments perdus dans des nouveaux lieux de débauche. Elles avaient surtout soif d'idéal, quelque chose qui les rendrait uniques dans leur personnage de femme glamour. Dans leur rapport à la nuit pour ne pas manquer leur rendez-vous avec la vie parisienne, ces douces sirènes n'oubliaient pas non plus de rendre hommage à leur origine provinciale avec des mots qui enchantaient le jeune lovey boy. Aux aurores, l'on voyait encore de jeunes femmes débarquer dans la capitale avec leurs petits bagages, le cœur rempli d'espoir porté par un rêve immense de gloire et de bonheur. Ces jolies jeunes femmes comptaient bien elles aussi conquérir Paris, dussent-elles pour cela attendre que la nuit envahisse leur âme et leur corps, puisque pour Michel la ville de Paris était une femme, une reine de Paname avec son chic glamour. Elles étaient de belles petites dames anoblies par cet amour qui rayonnait dans la vie de Michel, car il savait, bien que toutes ces jeunes filles permissives se laisseraient tenter sans contrainte, sans interdit par le faste de la vie parisienne. Sur le parcours de ce lovey boy, le bonheur sexuel ne fut pour lui qu'un partage avec certaines femmes, ce ne fut alors que la représentation d'une action héroïque d'un amour, une relation qui resta dans leur corps l'objet d'une excitation dans la terreur de leur compassion pour l'amour pervers. Le mythe célèbre des amours de Michel n'avait pour principal objet dans sa verve poétique que la nature et les règles de la tragédie, puisque son génie se nommait Cupidon, c'est pourquoi il ne considérait que l'essence de ses amours et les propriétés du plaisir qui en découlait. Il pratiquait l'art des amours antiques pour plaire ou même y déplaire avant même de livrer l'essor de son propre génie sans manifester d'obstacles rebelles. Il fécondait toutes ses idées, mais aussi ses décisions, même si elles ne furent pas toujours en accord avec celles de ses partenaires. L'amour est une étape à l'épreuve du temps qui passe, surtout dès que les individus naissent. Le sentiment amoureux semble alors s'accompagner d'un désir de durer pour toujours. Cette croyance s'appuie sur l'énigmatique besoin d'aimer l'amour et le sexe en dépit de sa représentation de l'éternité. Elle rencontre bien souvent un très grand nombre d'obstacles pour concrétiser un vrai bonheur. Cependant, le temps qui s'écoule fait que nous devenons des êtres conditionnés aux lueurs de l'amour pour exister. Aussi nous changeons nos sentiments aussi bien que nos rapports à l'amour. En conséquence, changer nos mœurs vis-à-vis de nos rapports sexuels dans l'amour pourrait-il donc résister au passage du temps pour nous laisser éprouver les joies de la chair, cela malgré nos intimes croyances dans le fait que l'amour reste un état singulier pour régir le bonheur. Enfin, le problème du sexe dans l'amour à l'épreuve du temps ne se limite pas au seul maintien de la relation sexuelle elle-même, puisque, lorsque celle-ci prend fin, faut-il pour cela en conclure que c'en est bien fini de l'amour, mais aussi que toutes ces traces du bonheur seront définitivement enfouies. Que nous restera-t-il du bonheur sexuel, lorsque l'amour ne sera apparemment plus que le reflet du passé? Michel connut ces jolies dames qui ne recherchaient qu'à allumer les flammes de l'amour dans les rues de la capitale. Dès les premières heures de la nuit, elles se retrouvaient sur le trottoir pour gagner leur vie. Parfois, certaines d'entre elles l'invitaient à finir la nuit amicalement dans un pub branché de la capitale. Dans ces rues très fréquentées la nuit, bien que la clientèle fût de riches bourgeois, elles ne connurent sans doute pas d'entôleuses, ce genre de femmes qui détroussaient leurs clients. Michel aidait toujours les prostituées à chasser ces détrousseuses à grands coups de poing, puisque les lois et les policiers n'avaient pas lieu d'être cités avec ces dames. La plupart de ces dames qu'il côtoyait savaient bien faire la chandelle le plus souvent devant un hôtel de luxe pour aborder et conduire leurs clients dans des lieux tranquilles. Elles ne racolaient pas sur la voie publique, elles n'arpentaient pas non plus le trottoir, ce n'étaient pas non plus de vulgaires filles qui tapinaient ou se prostituaient odieusement. En somme, elles n'étaient que de belles dames en mal d'amour, ce n'étaient pas n'importe quelles dames, puisqu'elles s'affichaient toujours aux alentours des beaux quartiers. Le cœur en vadrouille, elles apparaissaient comme des courtisanes les plus réputées pour leur beauté et les mieux loties de la capitale. Elles n'étaient pas non plus des lorettes ni des cocottes qui étalaient leur manque d'amour. Ce n'étaient pas non plus des putes qui officiaient clandestinement dans les beaux quartiers de Paris. Ces femmes faisaient la noce avec de jeunes garçons. Elles voulaient vivre l'amour avec la jeunesse. Quand elles venaient dans ces endroits de la ville, ce n'était pas pour fréquenter le peuple peu flatteur vêtu de repos, mais pour retrouver de vrais lovey boys. Les quartiers chics de la ville étaient bel et bien les endroits préférés pour Michel, car une grande majorité de ses courtisanes étaient de riches cougars. Il fut préférable pour le jeune homme de ne pas trop se retrouver près des brasseries, des lieux où se démocratisait chez la jeunesse noble, l'amour libre et pervers de la capitale. C'étaient des brasseries qui attiraient les petits rigolos qui aimaient bien simuler des rapports de séduction, mais ce n'était à vrai dire qu'une jeunesse perdue. Certaines des femmes qui fréquentaient ces lieux allaient même bien plus loin que l'amour et le sexe. Elle proposait à Michel des relations particulières, cela en fumant leur pourriture de narcotiques pour atteindre la lumière des cieux dans leurs idées du bonheur. Michel abusait toujours de la grande diversité des femmes, mais aussi de leur grain de folie pour tout ce qui touchait à l'amour. Il ne se comparait surtout pas non plus au duc de Lauzun ni encore moins à ses grandioses et impossibles amours. Les paroles salaces d'une certaine catégorie de gens portaient l'estocade de la vulgarité au plus profond de leur perversion. Parfois un regard haineux suffisait pour anéantir leur raisonnement d'homme normal. Aussi les jeunes starlettes du cœur ne virent rien venir du drame qu'elles vivaient dans le lit de ces maniaques du sexe, ces gens qui maltraitaient leur vie, avant de s'apercevoir de la dérive de leurs actes qui dévastaient les espoirs de bonheur de ces jeunes provinciales que le sexe dévasta de toute leur pureté. Elles confiaient toujours sans tabou à Michel toutes leurs histoires de femmes influencées par leurs besoins d'amour. Ces jolies demoiselles croquaient une vie de joie et de bonheur, une vie que l'on disait lumineuse, mais en parallèle à leur vie nocturne, elles distillaient leurs allusions dévalorisantes dans des camouflets en espérant en finir avec cette vie de chien qui les conduisait dans de nombreux lits chargés de désespoir. Bien souvent la tendresse leur manquait, puis tout en couvrant Michel de baisers, elle lui suggérait de passer quelques repos sur les plages de Deauville pour rencontrer une bourgeoisie bien différente que celle des nuits parisiennes. Il pouvait bien faire ça pour elle. Au début, il trouvait de simples excuses afin d'organiser un séjour lucratif sur la côte atlantique, puis pour ne pas être blessant volontairement et prendre ses responsabilités de professionnel de l'amour, cela sans le stress de meneur d'affaires, il dut enchaîner toutes ses attentions amoureuses auprès de ces belles dulcinées pour glorifier leur talent de pêcheresse. Lorsqu'il évoquait leur prouesse, ce n'était que pour servir ses propres intérêts. Il ne se serait jamais plaint du vacarme de leurs cris de joie, lorsqu'il leur avait demandé de préparer leurs valises pour ce séjour à la mer. Pour ne pas gêner leur commérage qui devenait ingérable, il tournait dans la grande pièce de l'un bout à l'autre sans parvenir à éliminer son stress. Il ne renonça surtout pas à évoluer auprès de ces belles demoiselles dans les loges du casino de Deauville. Il ne cessa pas non plus de travailler dans son esprit sa présence dans les salles de jeu du casino entouré de ses maîtresses devenues de belles covergirls. À force d'entendre les autres parler de ce temps où il n'était qu'un loveboy, un sous-entendu de cavaleur très doué pour séduire les femmes, il disait que ces mots lui faisaient parfois mal, mais il aimait bien renverser la situation en caressant le visage de ses chéries pour leur affecter toute son amitié et sa protection. Il n'acceptait pas le mal-être de ses prodigieuses amies, car leurs rêves inaccessibles avaient des limites qu'elles bravaient pour connaître la gloire de leurs aventures. Michel aimait avoir sous sa coupe la grâce de ces jeunes femmes convaincues qu'il était vain d'avoir plus d'ambition pour réussir leur vie avec panache auprès de ce lovely boy. Elles étaient tout de même très motivées pour focaliser leur attention sur ces vieux magnats, ces personnalités très puissantes du monde des affaires internationales qui fréquentaient les tables de jeu du casino. Elle ne tiquait jamais, lorsqu'il déclinait leur offre de plaisir à ses côtés, mais il accueillait avec joie cette passion qui chez elle les rendait très belles à croquer. C'est dans ces moments-là qu'il réalisait que sa perversion sexuelle plaisait à ses amantes. Elles souffraient parfois à cause de tout ce qu'elle lui concédait, mais elles avaient besoin de lui pour rester en couple avec le bonheur qu'elles avaient du mal à quitter définitivement pour une autre existence, puis trouver l'âme sœur et se ranger dans un tissu social comme l'avaient fait leurs parents. Elle se sentait unique pour Michel, elle le courtisait comme aucune autre femme n'aurait su le faire, il occupait tout l'espace de leur vie amoureuse avec son sourire de chaton blessé. Elles avaient confiance en lui, elles ne voyaient que son charme, un émoi qu'il installait progressivement dans le cœur de chacune d'entre elles. Ces mots doux d'amour leur pinçaient le cœur et les déstabilisaient, elles étaient dépendantes de lui. Il ne les baratinait jamais pour leur faire admettre ses directives, puisqu'il rentrait sans prévenir dans le plus profond de leur âme en soutenant son amour les yeux dans les yeux à ses amantes qui écoutaient ses paroles la bouche suave et les yeux étincelants d'amour. Un nombre incalculable de fois, elles voulurent croire qu'elles découvraient qu'elles pouvaient se rendre seules à des dîners mondains dans les restaurants du casino où j'étais, pourtant invitée par de vieux messieurs à qui je servais d'entremetteur pour mes dulcinées, mais je me gardais bien de faire étalage de mes poupées auprès de la gente mondaine qui guettait mon succès auprès des bourgeoises. Il me fallut inventer des verbes pour leur faire comprendre qu'elles se seraient ennuyées sans ma présence. Ce fut pour cela que je ne leur parlais que des rendez-vous amoureux que je leur décrochais avec ces vieilles canailles. Elles aimaient mes prestations de racoleur, puisque je leur préparais des scènes coquines. C'était bien la preuve que j'étais pour ces femmes bien plus qu'un lobby boy, surtout en raison de ma fumisterie bien évidente. Constamment prise en défaut, lorsqu'elles dénigraient mes agissements crapuleux, elles se recroquevillaient sur leurs genoux pour me demander pardon. Je supposais aisément ce qu'il était préférable de penser d'elles afin de les garder dans mon giron. Régulièrement je soupirais pour ne rien changer de leur enthousiasme à me suivre dans ces aventures malicieuses très aguichantes. Je commençais toujours par scruter leurs regards mais aussi leurs réactions, surtout lorsque je leur promettais de m'améliorer afin de redevenir comme auparavant un simple lovely boy, un garçon qui n'aimait que l'amour entre leurs jambes, mais leur grief s'étendait au-delà de mes pensées, car elles ne voyaient plus en moi que l'image d'un gigolo envieux, un homme qui leur faisait croire que la réussite de leur vie passait avant tout dans des aventures sexuelles avec lui, mais aussi qu'il ne leur fallait pas être trop distante avec ces vieux bourgeois qui leur permettaient de s'enrichir. Je ne leur reprochais pourtant pas de porter un regard réprobateur sur ma tenue, costume rayé, une allure extravagante qui semblait leur déplaire un peu. J'essayais de trouver la faute dans leur goût princier, cela me mettait même mal à l'aise au milieu de toutes les gens qui semblaient alors ne rien me reprocher. Revenu sur Paris, le quartier chinois mais aussi la dalle des Olympiades, dans le 13e arrondissement permirent à Michel de suivre l'empreinte des belles asiatiques de Paris, une visite insolite qui se révéla pleine de bonnes et miraculeuses amours. Les immenses tours de ce quartier que l'on disait être le triangle chinois avaient certes une pâle figure, mais il annonçait aussi fiévreusement des amours emblématiques qui ne ressemblaient à aucune autre de ses aventures. Michel considéra davantage cette escapade comme une étape transitoire dans le milieu chinois pour y rencontrer les mille parfums des cuisines typiques, des symboles aux motifs asiatiques. Ce fut pour le jeune Love Boy un voyage au cœur de l'Asie en plein centre de Paris. Il parcourait les avenues de Choisy et d'Ivry, mais aussi la rue de Tolbiac qui constituait le temple de la beauté des Pékinoises à Paris. Ce fut dans ces lieux où les néons commencèrent à briller en sinogramme que le jeune homme prit au sérieux le charme de ces jeunes Asiatiques qui déambulaient devant lui en ponctuant le mouvement de leur corps, mais aussi de leurs hanches pour appâter Michel. Protégé sous les toits d'une pagode qui conduisait dans une galerie commerciale où sentait bon la papaye, une jolie chinoise d'une trentaine d'années convia Michel à la suivre pour déguster une soupe tonkinoise. Les rayons bleus qui débordaient de ses yeux semblaient être décoratifs, mais ils foudroyèrent le jeune homme, la sculpture de son corps ressemblait à un tableau au paysage enchanteur, enfin la chance de passer dans le miracle de l'amour avec cette jolie femme s'était révélée inattendue. Chaque fois qu'il embrassait ce bonheur, l'occasion de colorer sa vie fit retentir dans son esprit les gongs de son bonheur, cela l'enchanta vraiment. Michel ne recherchait que de belles aventures amoureuses pour compléter le tableau de ses amours, puisqu'après tout il ne connut que le théâtre des amours pervers parisiens. S'il fut vrai que les génies les plus hardis dans leur représentation de l'amour pervers résidaient dans la capitale, le modèle idéal de ses douces amies provinciales venues chercher l'amour à Paris, lui avait toujours inspiré le rôle d'un artiste du sexe, un inventeur qui fournissait aux femmes la rêverie d'une vie nouvelle faite de gloire, d'amour, mais aussi d'excitation très stimulante. En quelque sorte un nouveau genre de vie semblable à un phénomène sexuel qui sut frapper vivement leur esprit. Cependant, bien que la perfection mais aussi l'ardeur des jeunes filles qu'il protégeait fût l'essence de ses plaisirs, certaines d'entre elles devenaient des protagonistes qui, tourmentées par la crainte de voir le jeune homme être aimé, préféré par d'autres femmes ou leur manquer de fidélité, parfois elles devenaient des rivales que la gloire aiguillonnait, seule la jalousie pouvait faire dégénérer ou bien encore avilir leur amitié. Dans le quartier chinois, l'on aurait même pu croire que la tragédie était déjà parfaite chez ces belles femmes venues des pays d'Asie, ces jolies femmes qui servaient de modèle aux règles de l'aristocratie chinoise, ces jolies tonkinoises aux raffinements extravagants capables d'abâtardir ce genre de Love Boy, mais en voulant lui donner un air de maniaque du sexe, elles y ajoutaient leur sourire aguicheur pour le persuader de les aimer. Enfin, une dernière raison l'avisa que peut-être il lui fallait diminuer son autorité d'entremetteur pour observer que toutes celles qui avaient le courage de s'hasarder à ses côtés ne recherchaient pas spécialement l'amour pervers ou démentiel, qu'elles eussent été de joyeuses maîtresses, quoi qu'on en puisse en dire, elles restaient sages et timides semblables à des images positives de l'amour. Elles adoptaient quelquefois de petits défauts pour agrémenter leur reconnaissance pour l'amour qu'elles attendaient de ce Love Boy, mais elles n'en parlaient qu'en désignant par des mots remplis de passion, cet amour qui se rapprochait fort bien de ceux de l'indécence. Quoi qu'il en fût, je me bornais à dire que leur besoin d'amour ne pouvait être satisfait que dans mes prouesses, mes actions héroïques très perverses. Des relations sexuelles qui n'auraient pu blesser leur âme dans des amours portés à un degré extraordinaire, cela jusqu'à un certain point pour les faire jouir intensément. L'héroïsme dans l'amour reste un acte courageux d'une grande valeur, mais aussi d'une grande générosité, un amour qui resta toujours au-dessus de la vulgarité. Ce Love Boy n'était pas un usurpateur, il aimait les femmes avec une fierté digne et respectueuse. Ces vices pervers entraient dans l'idée que ce héros dont nous parlons pouvait prétendre figurer dans le cœur des femmes, de même que la poésie de ses amours pouvait peindre les verbes audacieux qui enjolivaient ses actes salaces, mais comme un héros ou du moins comme un homme d'une sexualité extraordinaire, ce terme de Love Boy qu'on lui donnait justifiait en quelque sorte son héroïsme, parce qu'en général les vices sont vraiment héroïques, surtout quand ils ont pour principe quelques qualités qui supposent une originalité, mais aussi une fermeté peu commune, telles que la hardiesse du dieu de l'amour ou la force de l'intrépide Médée. L'action sexuelle est héroïque par elle-même, car elle se caractérise par ce qu'il exerce, elle se comporte en héros et se distingue par son courage face au danger, mais aussi face aux personnages mythiques ou légendaires qui accomplissent l'amour admiratif. Acquérir l'amour pour trouver le bonheur n'est pas une punition tyrannique, surtout quand le rapport sexuel agit sur la santé morale qui élève les sentiments anoblis par la grandeur de ses actes de la personne qui aime l'amour. La première qualité de l'action sexuelle reste donc les plaisirs, mais ce n'est point assez, puisqu'elle doit être encore de nature à exciter les sens loin de la terreur et de la pitié, c'est ce qui fait sa différence et qui la rend proprement délicieuse. L'action sexuelle peut aussi bien exciter le corps que l'esprit, mais son principal but reste l'admiration qui remue l'âme pour l'élever peu à peu vers un paradis d'amour infini. Dans ce moment-là, elle ne connaît point ces secousses violentes, ni cette tricherie de l'amour, elle frémit de la joie qui forme le vrai bonheur. La grâce des femmes fut le berceau de tout l'amour qu'il sut leur partager, par conséquent chez elles, il dut aller chercher l'origine de leur besoin de se prostituer dans ses bras, cela dans de dramatiques amours très pervers. Les heureuses maîtresses de Michel avaient tout le goût naturel des amours pervers avec les hommes, cela afin de voir ces choses extraordinaires qui faisaient brûler leur sang. Cependant, l'inquiétude accompagnait bien souvent leur amour, celui dont elles avaient grand besoin pour exister libres et émancipées. Ce ne fut, cependant, pas les jolies chinoises du 13e arrondissement qui permirent à Michel de trouver le repos. Elles ne lui furent pas non plus redevables de tout ce qui convenait à dire que les fêtes de Bacchus qu'ils partageaient dans leur lit purent occasionner la naissance de ses tourments. Les joies de la fête des amours que toutes ses adoratrices avaient célébrées dans ses bras, celles qui demeureront dans son cœur enchanteront son parcours de leur éboy. Malgré les sacrifices portés à leur corps, ils surchantaient en chœur à la gloire de ce dieu de l'amour, des hymnes que la qualité de leurs relations amoureuses sut renforcer dans le silence de la nuit. Le visage barbouillé de tant d'amour, un verre à la main, elle lui contait les louanges sexuelles du venin qui l'avait fait jouir. Dans cette esquisse et grossière description, Michel put alors en approuver une joie licencieuse mêlée au culte de la perversion. Il y voyait aussi chez toutes ces belles femmes du sérieux et du folâtre, un amour léger mais agréable. Dans ce chaos sorti de l'enfer de Dante où Virgile eut selon toute apparence dépeint les sacrifices de l'amour, les femmes, les filles selon les divinités du paradis, il aima ses belles amantes qui firent la fête pour partager quelques vanités liées à leur satisfaction sexuelle. Il lui fut facile de s'essayer être l'amour de leur vie, mais il n'était qu'un acteur qui apparemment racontait d'abord les actions que l'on aurait pu attribuer à Bacchus plus qu'à lui-même. Enfin, ces récits amoureux furent divisés en plusieurs parties pour ne pas couper plusieurs fois le charme et le plaisir variés qu'elles éprouvèrent. Mais puisqu'il n'y eut qu'un seul acteur, cela suffit pour en faire le héros de manière à constituer ce qu'on appelle un amour réussi. Aussi l'image de ses ébats se refléta dans leurs yeux et cela lui fut très enrichissant. Michel profita de l'ouverture de son kimono qui laissa apparaître les petits seins de sa compagne pour lui donner à nouveau de l'amour. Il dut entreprendre une action dans laquelle il transporta tout ce qui pouvait lui convenir de plaisir, ses efforts dénouèrent la passion de sa dulcinée, dès qu'il l'eut saisie dans ses bras, l'idée de mettre en spectacle le corps de la jeune femme fleurita son esprit, le reste vint aisément, il lui donna un amour à caractère odieux, ses mœurs et son élocution furent même inconvenables. Elle ne fut plus que l'accessoire de ses fantasmes pervers qui lui servirent d'intermède à ses folles actions salaces, de même qu'autrefois dans ses amours. Il sut se servir alors de toute sa fougue passionnelle pour leur faire aimer le sexe. Heureusement pour ce genre de dame, ce fut avec un fond de génie de l'amour, un goût délicat, mais aussi une facilité merveilleuse pour exprimer leurs besoins d'amour, qu'elles utilisèrent les règles de la décence et de l'honnêteté. Elles se contentèrent de produire une marche noble et assurée, sans orgueil, sans faste, sans même cette fierté propre aux femmes pour sourire à la vie, à l'amour. Le cœur battant, Michel sut s'intéresser à toutes ces femmes qui prenaient grand soin de lui pour l'élever aux olympes des cieux de l'amour. Il était devenu l'exemple du beau, le modèle de leurs rêves, ce genre de statue de l'ancienne Grèce que la philosophie moderne approuvait davantage pour son charme plus que pour son ossature. Il s'attacha d'abord aux philosophies du bonheur, aussi toutes ses prouesses amoureuses étaient remplies d'excellentes maximes pour conduire ses mœurs au summum des plaisirs. Il ne manquait jamais d'assister aux joies de ses partenaires, surtout, quand elles avaient des tendres et touchants émois qui les élevaient vigoureusement proche des monts près du ciel où elles touchaient au paradis. Les jours s'écoulaient lentement, le printemps n'était plus très loin, la saison des amours se faisait ressentir, les oiseaux chantaient, les arbres fleurissaient, ces signes marquaient le retour des petites balades et sorties en amoureux. Michel chérissait ses petits divertissements, car il n'y avait rien de plus enrichissant qu'une petite virée dans leur cœur pour goûter au bonheur de leurs aimés, ce qui signifiait pouvoir découvrir les secrets de leur corps. Il ne fut cependant couronné que de certaines côtelles de ces bourgeoises prétentieuses qui préférèrent sans cesse lui prouver qu'il ne mériterait pas toujours qu'il fût couronné des lumières de l'amour. Ce love boy leur parut parfois même être un homme ordinaire, ses vertus mais aussi ses vices n'avaient rien qui soit d'un ordre supérieur sans enflure. Avec fierté elles restèrent loin de lui sans lui en faire un reproche, puisqu'elles enviaient tous ses mérites. Souvent pompeuses pour cacher leurs défauts qui avaient très peu de beauté, elles s'habillaient richement pour peindre leur belle allure de femme sublime, aussi elles avaient assez de génie pour conduire les hommes dans l'étendue de leurs rêves salaces. Il n'y avait rien d'étrange dans la nature ni encore moins dans leur besoin d'amour qui les obligeait à employer l'art de tricher pour plaire et ainsi devenir des femmes irrésistibles. Ces choses perverses, quoique un peu forcées, étaient à peu près assorties à leur force matoiserie. Chaque acte d'amour se terminait par des joies qui exprimaient leur bonheur. Devoir traiter le sujet de l'amour comme une vraie ode antique, une fable pour retracer le velours du corps divin des femmes serait ouvrir la scène des amours par le plus grand de tous les miracles. Cela lui aurait permis d'entendre les cris de joie et de douleur de sa maîtresse, même s'il n'était avant tout qu'un rhéteur. Il ne leur disait vraiment que ce qui leur était nécessaire d'embonpoint pour ne pas rendre tragique leur relation amoureuse. L'élévation de leurs pensées, mais aussi l'énergie sexuelle qu'elles savaient produire dans leur style de femme fatale lui offrait les délices de l'amour, quoiqu'elles fussent languissantes, parfois même dangereuses. Leurs actions méritaient ce titre de femme glamour que leur fécondité étonnante leur servait à donner du plaisir. Outre sa connaissance des règles du bonheur sexuel qui d'ordinaire se composait grossièrement de la pénétration là où cela leur faisait mal mais aussi un grand bien, je veux dire juste au bas du ventre, elle sublimait ce génie qu'on appelle Cupidon, puisque dans les plus beaux moments de l'amour presque tout à coup les nuances immenses entre perversion et joie de la pénétration devenaient un compliment, une galanterie, voire même une louange. Le combat envers leur passion noble de l'amour ne les intrigua plus, cependant, le drame de leurs actions perverses dans des mouvements, des situations, des coups de colère ne les ménagea pas. Cet homme assez rare était né pour créer la poésie de l'amour, bien qu'un peu théâtral, il ne put s'empêcher de toucher aussi bien le terrible enfer que le sublime paradis de son amour qui dominait sur toutes ses qualités de lover boy. Il embrassait bien souvent la grandeur de l'amour dans sa hardiesse auprès des femmes. Cupidon, ce génie faisait de lui un être parfait pour l'amour, un garçon amoureux, un homme à femme, un lover boy délicieux qui partageait l'amour avec majesté, une force, une magnificence, qu'aucun autre petit homme ne put surpasser. Avec ses yeux de minot à son avantage, il ne craignait aucune concurrence, il en eut peut-être pas de sérieux sans le théâtre de ses amours, il en fut de même du côté des succès auprès des belles bourgeoises qui inspiraient de l'émancipation des femmes se donnèrent à lui dans un nouveau genre d'amour que la morale jugeait pervers. Ce garçon aimait beaucoup se rapprocher des passions de ses anciennes dulcinées qui sentaient encore bon la province, ces jeunes femmes un peu paysannes qui avaient gagné la capitale pour y vivre leurs rêves d'amour. Guidé par ses instincts sexuels en l'honneur des dames, ses galanteries respectueuses et délicates dans la vérité de sa passion pour les femmes qu'il crut plus puissant que son attache au plaisir sexuel, il voulut donner à la délicatesse de ses passions un goût exquis, nourri de son plus bel amour. Il sut aussi accommoder aux mœurs de son siècle l'amour que beaucoup de gens ne parvenaient à élever au-dessus de leurs défauts, puisqu'il y avait chez lui de vieux mots d'amour, des discours qui quelquefois embrassaient des endroits du corps de la femme qui sentait l'empathie. Il possédait un talent inouï pour éviter ces petites fautes qui paraissaient toujours élégantes, car il joignait le plus grand de ses sourires ou quelquefois de son petit air d'accroche-cœur pour remplacer ses fautes. Lorsqu'il cherchait à élever son âme bien plus qu'à la remuer dans son esprit, il paraissait plus aimable, plus commode, mais aussi plus à la portée des femmes, surtout toutes ces dames qui s'affichaient mieux en regardant fixement le soleil, ces belles amantes qui se plaisaient au milieu des éclairs et de la foudre et de l'amour qui brillaient dans leurs yeux. Alors que les mœurs sexuelles poussent à des pratiques sans limite de la perversité, il est nécessaire de savoir faire la différence entre perversion sexuelle et les expériences inédites de l'amour charnel. La perversion sexuelle est alors une source d'excitation qui ne représente aucun danger potentiel pour les partenaires de l'amour libre. Voilà pourquoi à l'ère de la libération sexuelle, ces relations perverses ne sont plus un tabou. Décrire des relations empreintes d'asservissement à l'objet sexuel pervers, ainsi que certaines de ses conduites restent un choix pour l'auteur afin de libérer la parole des gens qui pratiquent la perversion sexuelle pour parvenir à éprouver du plaisir. Les concepts de la perversion sexuelle sont loin d'être clairs et faciles à comprendre, il est donc nécessaire de définir en premier lieu les rapports à l'objet sexuel dans ce domaine. Or la perversion sexuelle passe obligatoirement par un contact charnel, la perversion ne recherche pas spécialement une victime, bien au contraire elle s'assujettit en général à une relation consentie pour éprouver du bonheur. Cependant l'on peut distinguer différents types de perversion pour atteindre le plaisir convoité et développer ainsi un aspect immoral que rejette la société, l'église et les bonnes mœurs. Cantonner la perversité à l'aspect de relations vicieuses, interdire cet amour qui sort des normes sociales pour valoriser la morale serait une erreur. L'amour pervers détermine bien souvent l'admiration d'une relation sexuelle exclusive de sa propre personne envers l'autre partenaire, puisqu'il s'agit bien souvent d'une conquête de l'esprit sur le psychisme de l'autre qui permet aux individus une jouissance qui valorise l'acte sexuel. Il est courant de désigner la perversité comme un comportement marqué par le vice, exécuté avec ruse pour tromper son ou sa partenaire dans un amour impropre à l'encontre des mœurs, voire même d'une débauche libertine au goût dépravé sur le plan sexuel. En ce qui concerne la morale et ses principes, la perversion se distingue vraiment de la perversité par son caractère lié à l'acte sexuel. Elle n'est pas non plus assujettie à un trouble psychique, puisqu'elle reste en dehors de toute connotation morale, sociale ou religieuse. Elle n'est pas non plus une détresse amoureuse ni encore moins une altération du comportement, puisqu'elle réside dans la satisfaction jouissive qu'elle procure. En pratique, la perversion sexuelle a plutôt un caractère moral et rationnel pour donner du plaisir dans des actions sincères, claires et franches qui expriment ce que ressentent les individus qui s'aiment et qui n'ont rien d'insidieux. Il ne faut surtout pas se culpabiliser d'une conduite sexuelle perverse, ni encore moins rejeter la faute sur son ou sa partenaire. Il faut tout simplement adapter sa propre conduite aux relations et changer de manière à paraître ainsi aimable, sympathique, mais aussi savoir s'adapter socialement au plaisir de la chair sans déguiser son bonheur d'aimer l'amour. Il n'y a vraiment rien d'antisocial dans la perversion sexuelle pour justifier d'une conduite charnelle méprisable, puisque l'on place les plaisirs de la chair dans l'amour pour éprouver une jouissance satisfaisante, car l'acte sexuel pervers se justifie dans une logique qui n'a rien de fautif. La perversion devient même une réalité gratifiante dans l'amour au service du plaisir pour expulser tous les conflits internes accumulés dans ses propres fantasmes amoureux, ainsi elle nous rassure de pratiquer un amour conforme aux normes de l'équilibre sexuel. Dans ce livre, l'auteur a cherché à mieux connaître, mais aussi comprendre ce qui se pratique sur le plan de la sexualité dans un contexte marqué par le pluralisme religieux, mais aussi sur la place des interdits occupés par la société. Les inégalités sociales, mais aussi le questionnement des rapports sociaux face au sexe restent visibles notamment avec les mouvements féministes qui ont libéré la parole des femmes. Les livres de l'auteur visent à présenter un état actualisé sur la question de l'émancipation des femmes, mais aussi de la liberté sexuelle. Dans le cadre de ces livres, l'auteur vous conduit à la mise en œuvre d'une réflexion sur la sexualité, ainsi que sur les normes sexuelles des acteurs et des actrices qu'il transcrit dans ses histoires, mais aussi envers les publics ciblés pour mobiliser les images perçues par les populations dans nos sociétés conservatrices. La société ne doit en aucun cas laisser dans l'ombre le choix sexuel, ni encore moins les autres formes d'engagement ou de modèles sexuels même extravertis dans l'égalité entre les sexes. Bien que la religion majoritairement catholique prône l'abstinence de toute sexualité avant le mariage, cela en matière de vie religieuse et sociale afin d'orienter l'amour dans la procréation, l'amour reste tout de même largement basé sur le plaisir des sens. L'influence de la religion dans la construction de l'amour s'attache bien trop souvent à des normes et valeurs qui conspirent pour tenter de renverser le pouvoir des plaisirs sexuels. Cependant, l'amour et le sexe ont toujours joué un rôle important dans la composition du bonheur chez les êtres humains. Dans notre société marquée par le pluralisme des genres homosexuels, les rapports sexuels se sont progressivement conceptualisés dans les plaisirs bien souvent pervers pour atteindre un état de bien-être physique, émotionnel et mental lié à une sexualité réussie. L'auteur rend compte de sa difficulté à traiter les questions de l'amour pervers, cet amour dont les mécontentements à l'égard du sexe sont multiples pour de nombreux gens bien pensants. Pour délivrer la sexualité de tout tabou, il n'en demeure pas moins nécessaire de parler du sexe dans l'amour, mais aussi des nuances qui doivent certainement être apportées quant à leurs approches dans la sexualité, furent-elles même perverses, surtout parce que la sexualité ne dépend vraiment pas essentiellement des orientations que l'on souhaite lui donner. La morale chrétienne interroge bien souvent la diversité des genres ainsi que les modalités des rapports sexuels qui font surgir des interdits moraux et religieux. On peut se demander aussi si le sexe dans l'amour reste le principal objectif du plaisir, ou s'il n'est qu'une porte de sortie dans les conflits des genres homosexuels entre les hommes et les femmes. Cette publication ne doit surtout pas donner lieu à un scandale littéraire, mais elle est faite pour produire un choc chez les lecteurs afin de les aider à résoudre la différence entre les situations perverses qui relèvent de la justice, des tribunaux et celles de leur propre plaisir de la chair. Grâce aux différents supports littéraires qui traitent autant du sexe que de la perversion sexuelle, il est possible en effet de considérer la liberté dans l'amour comme une dimension de l'émancipation sexuelle. Le développement des mœurs concernant les liens entre la sexualité dite normalisée et la perversion sexuelle s'inscrit dans un monde en fusion où les questions sur le sexe dont il nous faut porter une grande attention particulière doivent être d'ordre légitime dans le concept du plaisir plutôt que l'idée d'une dérive sexuelle perverse selon laquelle il fallait considérer tous les actes sexuels non reproductifs comme un simple objet du désir. C'est ainsi que dans le cadre de l'amour, la perversion sexuelle vise à légitimer les relations amoureuses en dehors des conventions morales ou religieuses, puisque la conduite homosexuelle considérée comme une perversion n'est pas non plus une maladie de l'âme dans l'approche de l'amour, car selon l'idée à laquelle les questions relatives à la sexualité entre deux êtres de même sexe, cette valeur fondée en partie pour lutter contre des normes, mais aussi des valeurs sexuelles, est considérée comme une forme positive dans l'amour depuis la nuit des temps. L'émancipation sociale de la relation sexuelle perverse ou normalisée tendit à constituer le fondement de la révolution sexuelle des années 60 qui a fait germer l'amour libre. L'amélioration de la condition des femmes constitue aussi une avancée en faveur de la liberté sexuelle, bien que la perversion sexuelle fût aussi une solution efficace dans un contexte marqué par les mouvements antisociaux, ceux qui fondèrent leur discours, mais aussi leurs revendications dans un cadre homophobe sur l'idée de la religion, cette institution qui ne voulut pas régulariser l'amour libre et le plaisir sexuel. Définir l'intrépidité des actions perverses ou bien parler d'une perversion sexuelle normalisée ne se résumerait qu'à un procès contre l'amour libre, bien que le caractère de ceux qui la pratiquent ne trône point dans la tyrannie, ils agissent tout de même pour ou contre dans ce qu'ils nomment une dérive sexuelle. La société s'élève bien souvent contre cette forme d'amour, elle anoblit la grandeur des personnes qui agissent en fonction des règles morales, sociales ou religieuses, mais envers et contre tout, Michel sut choisir l'amour pervers sans faire la différence entre ce qui le rendait pompeux, puisqu'il sut cacher ses défauts, bien que ce love boy eût connu très souvent ce genre de situation amoureuse perverse mais aussi très délicate. Il sembla ne point vouloir y renoncer. Cependant, l'émancipation des femmes que les suffrages, mais aussi les féministes réussirent à faire aboutir dans leur contestation pour l'égalité des sexes fut un grand bouleversement au siècle dernier. Les aventures amoureuses que j'ai connues tout au long de mon existence de cabotin en sont la preuve. Conclusion. Autrement dit, les questions sociales ou religieuses qui ont pour occurrence le sexe, mais aussi la différence entre les individus restent centrales pour développer l'égalité entre les hommes et les femmes, les stéréotypes de genre, mais aussi l'émancipation sexuelle. Fin. Auteur, Michel Alarcon.